Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, je vous parle en ce 29 octobre. L'Halloween qui s'en vient rapidement de la saison, premier mois de la saison qui tire à sa fin. On va parler de tout ça aujourd'hui. Bon, on parlera pas de l'Halloween, mais on va parler de la première moitié, premier mois de saison des Canadiens de Montréal. Entre autres, ça va être une des choses qui va être au menu aujourd'hui. On va parler aussi de ce qui se passe chez les Sénateurs. On va parler de quelques espoirs aussi de la Ligue nationale. Mais surtout, on va avoir comme invité André Tourigny, l'entraîneur-chef du Mammouth de l'Utah, qui va venir nous parler aussi de justement de ce premier mois, mais tout ce qu'ils ont vécu depuis quoi, là, un an et demi, là, depuis qu'ils sont arrivés à Utah. Donc, on va parler de ça et je vais faire cela avec mes deux collègues habituels, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume!
Salut, Nick!
Ça va?
Ça va très bien. Très en forme.
Jeff Chaumont. Salut, Jean-François.
Salut, Nicolas. Comment tu vas? Bonjour, Guillaume. Je pense que c'est la première fois qu'on y voit avec mon nom complet, Jean-François.
Ben, c'est trop. J'ai dit JF Chaumont, puis ensuite, j'ai ramené Jean-François pour pas qu'on pense que c'est Jean-Francis ou Johnny Frankie, mais pour le reste, tu deviens JF jusqu'à la fin du show. JF, justement, t'es allé du côté d'Ottawa cette semaine. D'ailleurs, t'as des salutations à faire, je crois, envers la serveuse qui a décidé de garder un certain resto pub ouvert jusqu'à 3h du matin lundi.
C'est l'héroïne de la semaine du côté de l'Ontario avec un match qui ne voulait pas se terminer.
Techniquement, c'est le match de baseball,
troisième match qui se conclut en 18e manche avec le circuit de Freddie Freeman. Techniquement, ça fermait à 2h. Puis moi, je commençais à être nerveux, à me dire, ben écoute, il va falloir partir. Mais il n'y a personne qui partait du bord. Donc, on vivait d'espoir. Puis oui, 2h46, je crois. À ce moment-là, elle commençait à nous dire gentiment, vous devriez songer à retourner à la maison parce qu'on ne sait pas quand la fin de ce match arrivera. Puis moi, étant docile, sérieux, j'ai écouté. Puis je suis parti après 17 manches et demie.
Attends, t'as pas eu la fin?
Non, j'étais dans ma voiture quand Freeman la met de l'autre côté. Donc, t'attends tout ce temps-là pour ne pas voir le circuit. Julian McKenzie d'Athletic, même chose. Alex Adams qui était avec nous aussi, Zachary du droit. Donc, je me trouvais pratiquement magique d'avoir réussi à trouver un bar premièrement ouvert dans le coin d'Ottawa. Ça c'était juste là, on parlait d'un exploit.
Dans le coin de Canada.
Je venais de finir le match du côté des Sénateurs contre les Bruins. tu t'envoies l'article à 11h. À ce moment-là, je crois qu'ils sont en 8e ou 7e. C'est 5-3 pour les Blue Jays.
Toi, tu savais pas.
Je me dis, bon,
mais
je vais voir deux manches. Tu sais, deux manches, je suis pas supposé. J'ai le temps de boire un jus d'orange en deux manches. Mais finalement, j'ai vu un match au complet. Là. Je me suis rendu jusqu'à 17h30 sans voir le circuit gagnant.
Ouais, toutes mes sympathies. En plus, il fallait que tu tapes la raid Canada-Ottawa.
Non, je dormais du côté de Canada.
Ah,
j'avais choisi de rester tout près de l'hôtel, de l'aréna.
Voyage de luxe.
Voyage exotique du côté d'Ottawa.
La belle rue de l'hôtel à Canada.
C'est quoi, ça Palladium, fait rêver. Palladium Drive, tu sais?
Palladium Drive, la ligne droite. Tu peux tout simplement pas te perdre. Tu vois aussi ce magnifique amphithéâtre au loin.
Mais ça fait positif, partie des joies de voyager. T'es pas resté coincé dans un ascenseur, donc c'est déjà ça de gagner pour toi.
Non.
C'est bien.
T'as pas passé Don Sweeney était dans mon ascenseur, puis honnêtement, après une défaite de 7-2, j'ai pensé à toi, Guillaume, en me disant faut pas qu'on reste coincé parce que Don était très, très peu souriant.
Je pense qu'il aurait ouvert les portes.
Il aurait sauté assez pour qu'elle déballe un peu et qu'elle descende.
Exact.
Aujourd'hui, c'est ça, comme j'ai dit à l'émission, on va parler de tout ça. Chers auditeurs, si vous nous écoutez sur le site web d'LNH.com, on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Faites une recherche, la tasse de café LNH en audio à Apple, Spotify. Vous allez nous trouver. Et maintenant, cette saison en vidéo, allez sur la page YouTube de la NHL, section podcast. On est là. Sinon, faites une recherche, la tasse de café LNH. Vous allez pouvoir nous regarder. Les gars, on se lance? Notre invité aujourd'hui, vous le connaissez, il est l'entraîneur-chef du Mammouth de l'Utah, qui connaît tout un début de saison jusqu'à présent, premier dans l'Association de l'Ouest. Un bon départ comme on l'espérait du côté du Mammouth. André Tourigny, salut André.
Salut les boys, ça va bien?
Ça va bien toi?
Ça va bien.
Ben oui, ça va bien, ça va bien.
André, je vais te lancer sur une petite anecdote. Je ne sais pas si tu te souviens, à peu près à pareille date l'an dernier, j'étais venu te voir du côté de Salt Lake City, puis vous meniez 4-1. Contre les Sharks à 55e minute. Puis vous l'aviez échappé. Je veux juste t'en rappeler. Je sais que t'aimes ça, les mauvais moments, mais vous l'aviez échappé 5-4 en prolongation. Puis je te parlais le lendemain matin dans les bureaux du côté de Utah. Je me souviens que tu avais des chums de Nicolette qui étaient venus te voir aussi. Puis même tes amis m'avaient dit « Ouf, bonne chance pour demain. Ça se peut que l'ours ne soit pas trop de bonne humeur. » Puis ça m'avait marqué parce que tu m'avais dit « Écoute, j'ai pas bien dormi. J'ai dû partir à 4h30 du matin, arriver au bureau. J'étais déjà là très, très tôt. Là, je veux pas te tourner le fer dans la plaie, mais c'est un revers du côté d'Edmonton hier soir, 6-3. Tu voyageais par contre, mais je suis curieux. Est-ce que tu as une plus grande maturité? Tu t'es levé à 5h du matin aujourd'hui ou tu es encore de bonne heure au bureau?
J'étais encore de bonne heure au bureau, mais on est arrivé tard. Vous avez déjà... L'aéroport à Edmonton est tellement loin.
Oui, c'est quasiment à Calgary.
Ben oui, c'est ça. C'est quasiment d'une autre province. Fait que, le temps de te rendre là, tu t'en viens, puis là, il faut que tu passes les douanes. Il faut aller dans le terminal. Fait qu'on est arrivé là, assez tard à la maison. Fait que, puis un matin, il y en avait une belle conférence de presse là, pour annoncer l'extension de Logan Cooley. Fait que ça a fait une nuit plus courte, mais ça reste que les Sharks l'année passée. Puis les Oilers de cette année, c'est quand même un peu différent.
Ouais, et Connor McDavid, la pilule est peut-être plus facile à avaler.
Ouais, honnêtement, on ne jouera pas rien que des bonnes games. On n'est pas. On est bien content de notre voyage. On est bien content de la façon qu'on a joué. Hier, on a très bien joué en première période. On a peut-être joué notre meilleure période de l'année, mais on a. En deuxième période, là, on n'a vraiment pas joué comme on est capable. Puis, on score, ils ont vraiment profité de la situation. On score le 5 buts. Puis, ça va être, on va mettre ça dans le bagage puis de l'expérience pour nous autres. Mais pour aller avec ton anecdote, Jeff, mes chums de Nicolette, ils étaient à Edmonton hier.
Oh, OK. Vas-tu leur demander d'arrêter de te suivre ou?
Non, mais il était à Winnipeg aussi quand on a gagné. Okay. C'est bon.
Donc, ils ont eu le droit de voyager. Vu que tu as gagné à Winnipeg, tu leur as dit c'est bon, je vais suivre Edmonton. Mais ils ont choisi les deux perles de l'Amérique du Nord, Winnipeg puis Edmonton.
C'est ça, exact.
Ils t'aiment beaucoup, hein?
Ouais, c'est ça, exact.
Prochaine fois, envoie-les à comme la place où vous avez joué deux jours avant. Ça va être plus simple. Tu vas être certain. Il n'y aura pas de résultat négatif. Mais André, quand même, super début de saison pour le Mammouth. Sentais-tu dès le début, quand l'entraînement et tout ça, qu'il y avait une effervescence? Vous avez enfin de la stabilité. Vous avez enfin un début de continuité dans ce que vous essayez de bâtir à long terme. Sentais-tu que déjà, il y avait ce petit quelque chose-là de début de la saison?
Oui, définitivement qu'on sent là, qu'il y a un buzz, qu'il y a un momentum incroyable partout. Tu sais, avec nos partisans, avec notre organisation, avec nos joueurs. Tu sais, il y a beaucoup d'optimisme, beaucoup d'engouement, beaucoup d'énergie, beaucoup de tu sais, on voit des belles choses en avant. Ça ne garantit pas qu'on va les atteindre, mais ça. On voit les possibilités. Mais, écoute, tu sais, notre propriétaire, depuis qu'il est en poste, tu sais, comme je dis souvent là, à mes chums, tu sais, il n'y a pas un propriétaire qui va acheter une équipe qui va dire je ne m'occuperai pas de vous autres, puis on ne sera pas meilleur dans la ligue, puis ça va être tough. Tu sais, c'est sûr que chaque propriétaire qui arrive, il dit qu'il va s'occuper des joueurs, qu'ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour amener un club gagnant puis un environnement, etc., etc. Mais c'est pas tout le monde qui met tout en place pour que ça arrive. Nous autres, là, c'est impressionnant, honnêtement, de voir là, autant. Tu sais, j'ai des dates. Il a acheté le club le 18 avril. Le 23 avril, il a amené l'équipe à Salt Lake City. Quand on est arrivé à Salt Lake City, cette journée-là, le 23 avril, là, on a visité des arénas où ce qu'on pouvait pratiquer l'année d'après. Là. Tu sais, on avait même, on savait même pas si on pratiquait. Là, là on parle pas qu'on n'avait pas de chambre, qu'on n'avait pas de gym. Non, on savait même pas où est-ce qu'on pourrait pratiquer. Puis, dans la même journée, première place qu'on a été, ça pouvait pas marcher, l'espace, etc. Tout de suite, il a dit, bon, fais une coupe de téléphone, une demi-heure après, on était dans une autre place, puis ça va être ça. OK, ouais, là, on n'a pas parlé, il n'avait pas parlé à personne encore, là. Il avait pas, ça ne savait même pas si les glaces étaient disponibles. Tu sais, puis comme de fait, le 10 septembre, donc pas bien plus longtemps plus tard, on rentrait, on avait un gym, on avait des bureaux, etc., etc. Puis un mois avant, au mois d'août, on faisait la première pelletée de terre pour ici, la nouvelle practice facility. Fait que non seulement il en faisait une temporaire, en même temps, il commençait à construire celle qui va être où ce que je suis présentement, ce qui va être la permanente. Puis il disait, ça va être prêt au mois de septembre. On se disait, on sera pas prêt dans 13 mois, c'est impossible. Tu sais, tout ce que je viens, ça prend ça 13 mois, on voit le permis. Comment ça va se faire? T'sais. Tout est fait, puis encore mieux qu'on pouvait s'imaginer. Puis tout est fait avec des détails. Chaque département a été rencontré. C'est exemple, nous autres, les coachs, c'est quoi vous avez besoin? C'est comment qu'on veut que ça soit séparé? C'est quoi toutes les technologies qu'on veut, etc.? Parfait. C'est nous autres qui a fait le design de notre environnement. Même affaire pour les gars d'équipement, même affaire pour la cuisine, le lounge, les gars de la médicale, les high performance, le gym. Honnêtement, c'est extraordinaire. C'est son designer personnel qui fait la décoration. c'est pas quelqu'un. Il faut vraiment que tout soit fait à perfection. Il est rentré dans une des pièces. Là, au mois de septembre, il a dit non, ça marche. Pas. C'est pas assez beau. Puis, pendant votre premier voyage sur la route, on va redécorer, on va mettre une finition de bois, etc., etc. Tu sais, c'est même affaire, il est rentré dans le video room. Non, la télé est pas assez grosse. On va en mettre une plus grosse. Et c'est, il veut la perfection. Il est tellement. Tu sais, il ne fait pas juste le dire. Tout ça, là, toute mon histoire, là, pour dire que. Il veut, pas rien qu'il dit, il livre. C'est le même dans tout. C'est le même partout ce qu'on va. Fait que ça a créé un engouement, ça a créé une fierté, ça a créé un sentiment d'appartenance. Tu vois que tout le monde est on board, tout le monde est all in, puis ça, c'est le fun.
Puis pour donner une image à ceux qui nous écoutent, là, l'an dernier, André, votre centre d'entraînement, c'était un complexe olympique là, qui datait de 2002, un petit peu en banlieue ou en retraite Salt Lake City, à quelques kilomètres du centre-ville.
C'est ça.
Puis la glace
était au milieu des anneaux. Là. Donc, tu voyais les patineurs qui tournaient autour. Puis, je me souviens que tu m'avais dit qu'il avait quand même investi quelques millions aussi dans le vestiaire en sachant très bien que dans quelques mois, il disait au revoir. Ça démontrait dès le départ le sérieux de M. Smith, propriétaire du côté de l'État.
Le commitment est absolument extraordinaire. Là. Je sais pas... c'est comme tu as dit, là... T'sais, l'année passée, c'était une situation d'incirconstance. On a trouvé ça parfait. Sauf que c'était pas optimal dans le sens que les heures de pratique, il fallait être à l'extérieur des heures que les anneaux. Parce que les anneaux, ceux qui patinent, font l'anneau olympique, là, le patinage longue piste.
Longue piste.
Bon, ben, il fallait traverser la piste pour aller sur la glace. Fait que on va pas le faire pendant qu'ils tournent en rond. Là, parce que
les autres, c'était un accident.
Ils sont vite. Il y avait des compétitions aussi, on l'a vu. Là. Honnêtement, ça, c'est intéressant, mais on avait rien qu'une glace. On a deux. Là. Honnêtement, là, notre pratique, c'est
puis en même temps, incroyable. quand tu vois tout le sérieux qui est placé pour les infrastructures, etc., tu as assez d'expérience pour savoir, tu le disais aussi tantôt, qu'ils vont vouloir des résultats, qu'ils vont vouloir gagner assez rapidement.
Mais
ça, est-ce que c'est plus facile à gérer, les attentes. Cette année, ça va bien. 8-3, c'est un beau départ. Ouais. Mais comme coach, comment tu vis ça?
Bien, moi, ce qui est important pour moi, n'importe quelle équipe, c'est que les attentes matchent la réalité. Tu sais, là, si t'as une équipe qui est dans la construction, puis ton propriétaire, lui, il veut faire les playoffs, ça marche pas. Tu sais, c'est juste pas possible. C'est la meilleure ligue au monde. Tu sais, là, ça va arriver une fois, là, pas par 5 ans, qu'il y a une équipe là, qui... que personne n'attendait que, OK, les, OK, mais tu sais, ils vont souvent perdre en première ronde ou quelque chose de même, puis ils vont revenir en réalité l'année d'après. Mais tu sais, moi, j'avais vécu avec l'Avalanche là, ma première année avec Pat. Il avait fini dernier, puis l'année d'après, on a fini là, dans les trois, quatre premiers de la Ligue. Pat avait gagné une course de l'année, etc. T'sais, OK, mais l'année d'après, on a manqué playoff. On est revenu, c'est revenu un petit peu à réalité. Tu sais, c'est... Ça va arriver, mais quand que les attentes matchent la réalité, ça, la pression, c'est correct. Là. Il n'y a pas une pression extérieure présentement qui est plus forte que la pression à l'intérieur, dans le sens que nos joueurs, nos coachs, on sait ce qu'on est capable de faire et on veut gagner.
Ton groupe, ton noyau est quand même assez jeune, mais a quand même de l'expérience. Il y a beaucoup de similarités à faire peut-être avec ce qui se passe à Montréal. Martin Saint-Louis dit souvent... Dans les dernières années, bon, là, c'est des petits bébés. Là, ils arrivent à l'adolescence. Mmh. Des jeunes adultes, tu sais, ils comparaient ça à la courbe de croissance d'un enfant. Toi, de ton côté, comment tu vois ton groupe? T'sais, c'est-tu rendu un groupe qui est mûr, qui est prêt à gagner puis à répondre à ces attentes-là?
Ben, comme tu mentionnes, tu sais, notre similarité avec les Canadiens, là, depuis que Martin est arrivé, depuis que je suis arrivé en Arizona. En 5 ans, là, on est toujours à 2 points près un de l'autre.
Mm-hmm.
Fait que si pour le monde là, qui ne savent pas là, qu'est-ce qui se passe, là, la première année, là, on a fini 2 points avant deux autres. Même chose les trois premières années. Puis l'année passée, ils ont fini 2 points avant nous autres. Puis tu sais, on est dans même. On est pas mal dans le même nombre de points, je pense. Là. On est pas mal à la même fiche, quelque chose de même. On suit. T'sais, on suit. On a une jeune équipe. On a une équipe qui veut faire le prochain step. Puis c'est sûr qu'on vit les mêmes choses. T'sais, l'expérience, t'sais, la jeunesse, c'est l'énergie, c'est l'enthousiasme, c'est, ils n'ont peur de rien. Des fois, ben, l'expérience, ben, c'est l'inverse. Il a déjà passé à travers cette situation-là. Il est mieux équipé pour les situations qu'il est capable de voir venir. Il le sait. Mais en même temps, écoute, ça prend le talent. Ça prend une équipe qui a du talent. Puis avoir la chance de travailler avec ces jeunes-là qui ont le talent, pour moi, c'est un privilège. Puis je suis bien content là, de pouvoir accompagner nos jeunes. Puis, tu sais, quelle heure quand je suis arrivé, qu'il y avait 22, 23, puis là, il devient, il est le leader de l'équipe, puis je l'ai vu grandir à l'intérieur de ça, puis que ce soit les Nick Schmaltz, que ce soit les Vegemelka, là, bien entendu, on a les Gunter, on a les Peterka, on a les Cooley, qui continuent à grandir, Schumacher, etc. Je trouve ça le fun, je trouve qu'on a un bon mix, puis ce que Bill a toujours fait avec nous autres, que j'ai apprécié énormément, on a toujours eu des bons vétérans. Pas nécessairement des gars de première ligne, mais que ce soit ma première année, quand on était en complète reconstruction, on avait des J.B. Gould, des Antoine Roussel, Strawman, Andrew Ladd, des gars comme ça, des gars qui avaient gagné la Coupe Stanley, des gars qui avaient été des leaders, des capitaines dans des équipes. Ça l'a amené, ça a montré la voie à nos jeunes. C'est encore la même chose. Là. On a des Ian Cole, des Oli Mara. On a 9 Coupes Stanley dans notre chambre. Okay. Des gars qui ont déjà passé par là, que ce soit Stanley, Nate Schmidt l'année passée, Vanecek. Des gars qui. Peut-être qu'il y en a qui ont été des leaders, peut-être qu'il y en a qui ont. C'était pas eux autres les leaders de l'équipe, mais ils ont. Tu sais, là, que ce soit Ian Cole ou Oli Mara, ils ont gagné des Coupes Stanley avec Sidney Crosby. Là. Que ce soit Stanley, Vanecek, Nate Schmidt, ils ont gagné des Coupes Stanley avec Barkov. Puis ils ont vu ces gars-là âgés. Sergachev avec des Edmund, puis des Stamkos, puis des Kucherov. Fait que ça amène une expérience extraordinaire dans notre équipe.
Ce défi-là, justement, le prochain défi, puis que les vétérans, ces vétérans-là vont aider, c'est-tu de passer de l'étape d'être les chasseurs aux chassés? Tu sais, avec l'équipe que soudainement, quand vous pointez quelque part, là, vous allez être sur le radar de cette équipe-là, ils vous attendent et non pas peut-être ce que vous étiez quand vous étiez en reconstruction.
Oui, c'est sûr, mais t'as raison. Je te dirais que ça a changé sur l'année passée. Par le style d'équipe qu'on a, on a une équipe qui a de la vitesse et qui a des skills. Fait que, veux, veux pas, les équipes sont préparées. Là. Je l'ai vu tout de suite l'année passée dans les stratégies, les façons que l'équipe l'adversaire match les lignes, s'assure de jouer d'une certaine façon contre tes meilleurs joueurs, tu vois vraiment là, que, okay, il y a un niveau de respect qui est différent. Puis écoute, ça fait partie de la progression. On veut se rendre où ce qu'on, selon nos objectifs, ben, on sait qu'on faudrait passer à travers là-dessus.
André, tu parles d'objectifs, puis se rendre où on souhaite. J'imagine que se rendre où on veut, ça reste un objectif de parler des séries. Quand vous regardez votre division, il n'y aura pas beaucoup, tu n'auras pas beaucoup de breaks. C'est les Stars, l'Avalanche, les Blues, le Wild. La centrale, c'est excessivement compétitif. Votre départ, là, c'est un échantillon qui reste petit, mais d'être 8-3, à quel point ça peut être précieux pour donner un élan puis montrer que ça peut être possible aussi?
Oh, pour toutes ces raisons-là. Un, tu sais, on est rien que 5e en haut de 500. Ouais. Au mois de mars, t'es 5e en haut de 500, t'es en dehors des playoffs. Là. T'es même pas. Fait qu'il faut pas. T'sais, on n'a rien accompli. Cependant, personne ne peut nous enlever ces 8 games-là qu'on a gagnés. On a gagné. Là. C'est sont dans la banque, c'est réglé. Il faut continuer à accumuler. Mais tu sais, le monde. Tu sais, nous autres, à l'intérieur, on a vécu des choses dans le passé que les gens, peut-être à l'extérieur, n'ont pas vu de la même façon que nous autres. Tu sais, il y a deux ans, pas l'année passée, il y a deux ans, à American Thanksgiving, on était dans les playoffs. À Noël, on était dans les playoffs. Après ça, quand on est arrivé au All-Star Break, on était 2 points en arrière des playoffs. Mais si vous vous souvenez, c'est là que Salt Lake City avait fait une déclaration qu'il voulait un club l'année puis que les rumeurs avaient commencé. Puis on avait perdu 13 en ligne à partir de là. Ça n'avait pas dérangé personne, mais on n'a pas gagné une game dans le mois de. Il y avait eu 2 games, je pense, dans le mois de janvier. On était en Floride, je me souviens très bien, le 25 janvier. Puis on a perdu les 2 games sur le voyage. Après ça, c'était le All-Star Break. On n'a pas gagné une game dans le mois de février. Pas une. C'est pas compliqué à compter, là. 0. Puis on a gagné le 1er mars à Ottawa. On a joué un back-to-back Montréal-Ottawa. On avait dominé la game à Montréal. On avait perdu. Puis le lendemain, on a gagné à Ottawa. Puis là, on avait bien fini l'année. Mais tout ça pour dire qu'on était dedans. Là. On était dans les playoffs. Puis là, ça, c'est arrivé. On s'est affargé. Tu sais, fait là, qu'on soit 8-3, là, on a déjà eu du succès. On a déjà passé par là. On s'est déjà emballé, puis ça, on a déjà payé pour. Fait que, tu sais, on a une maturité dans notre équipe qui est bien différente. Tu sais, quand on gagne, OK, on a gagné, mais on prend l'avion, on s'en va dans la next ville. Puis hier, on a perdu. OK, il y avait un niveau de frustration, aucun doute. Spécialement qu'on sentait qu'on aurait pu gagner ce match-là. Mais écoute, on ne commencera pas à se frapper à la tête des murs. Là, on a perdu une game. Là, on joue contre Tampa Bay dimanche. Puis c'est ça qui est important.
Est-ce que le fait d'avoir vécu tout ça en équipe, il y a plusieurs joueurs dans cette équipe-là qui étaient là quand l'équipe a déménagé tout ça, à quel point ça a soudé le groupe puis d'avoir traversé ça ensemble, là, qu'est-ce que tu vois dans la dynamique de ton vestiaire?
Notre vestiaire est extraordinaire. Honnêtement, là, on a un groupe qui est très serré, un groupe qui se tient, un groupe qui aime être ensemble. Puis on le voit. Quand Logan Cooley, dans sa négociation, il en a parlé souvent de ça. À quel point que l'ambiance, les boys, c'était important pour lui. On a signé Brendan Tanev, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue. Puis il a mené dans le camp d'entraînement. J'ai jamais vu ça, un groupe serré comme ça. Tous les gars sont bien ensemble, ils se tiennent ensemble, puis ils ont du fun ensemble. Fait que c'est bien important. Puis, comme tu dis, des groupes serrés comme ça, ça se bâtit dans l'adversité, puis ça se bâtit dans le succès. Puis je pense que le fait que ça fait longtemps qu'on est ensemble, pour le noyau, je pense que ça l'aide beaucoup.
André, tu as un rôle à jouer aussi là-dedans, là, de s'assurer que le groupe est tissé serré. Ouais. Je suis curieux de savoir, tu es déjà l'entraîneur, le 4e le plus vieux en termes d'expérience. Il y a juste John Cooper en avant de toi, Jared Bednar, Rod Brind'Amour. 5e saison avec Arizona, Utah.
Ouais.
As-tu besoin de changer ton message? Pas de changer ton message, mais as-tu besoin de te réinventer un petit peu? Question que le message passe mieux. Ça ressemble à quoi le défi d'avoir une longévité comme entraîneur puis pas devenir lassant non plus pour tes joueurs.
Oui. Mais ça, c'est quelque chose qu'on adresse à toutes les fois qu'on fait un bilan, que ce soit à fin de saison, mi-saison. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour justement pas que ça vienne redondant, pas que ça vienne monotone. Puis, tu sais, l'affaire qui est importante là-dedans, c'est on est 9 entraîneurs, du coup. Tu sais, d'utiliser tout le monde, de changer la voie, d'être créatif dans ta façon de présenter les choses. Ça, c'est une des choses. Je te dirais l'autre chose, quelque chose que je dis souvent, c'est le meilleur coaching, il vient des joueurs. Quand, tantôt, on parlait des vétérans, des leaders, des gars. Tu sais, là, quand eux autres, c'est plus que tu es capable de lui donner la parole, plus que tu es capable de t'assurer que c'est eux autres qui vont faire le coaching, faire pas la police, mais qui vont setter les standards, plus tu vas avoir de longévité. Tu sais, c'est ta job comme leader, comme coach, c'est nécessairement que ce soit toi qui fasses la job. C'est t'assurer que la job va être faite. Ça, plus que c'est toi qui en fais, moi, de la façon dont je le vois, c'est pas souvent un manque de leadership. Si tu fais ce que tu as à faire, les choses se règlent avant qu'ils arrivent sur ton bureau. Si tu fais ce que tu as à faire, les gens sont proactifs, les gens sont engagés dans les standards, puis ils prennent ça sérieusement. Si eux autres, ça leur appartient à eux autres, la culture, la discipline, la façon, l'éthique de travail, ou qui qu'on est, ben, ça ne sera même pas à toi parce qu'ils s'en ont déjà occupé. Plus, c'est sûr que quand tu arrives ou avec une jeune équipe au départ, c'était impossible. Sauf qu'on a travaillé fort à tous les ans pour bâtir ça. Puis, tu sais, ça va arriver des fois là, que les gars, tu sais, il y en a qui me connaissent, là, ils me voient que je suis pas content. Puis, tu sais, ils vont me dire, oh, we'll take care of it. On s'en occupe. Tu sais, des fois, là, ils se posent de quoi sur la glace. Là, les gars savent que ça, c'est le genre de choses qui ne passent pas. Il y a un vétéran, un leader qui va me dire, I got him. I will talk to him. Tu sais, je vais m'en occuper. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est ce qui est le plus fort. Parce que c'est la même affaire que vous autres dans votre vie. Quand votre mère vous disait de ne pas faire ça, tu l'aimes, ta mère, tu la respectes et tout ça. Tu disais, ouais. Mais quand que c'est devenu ton chum qui te l'a dit ou quelque chose de même, là, ça a fait. Là, je suis, oh boy, OK. Là, ça fesse un peu. Là, tu dis, ouais, OK. Ça a plus d'impact. Fait que tu te rappelles que Mel avait raison.
t'as ton leadership pour calmer l'ours un peu. Là.
Ouais, c'est ça. Oh, c'est ça. Ça m'a fait avec mes coachs. C'est Mario, ça fait 20 ans, j'étais avec. Tu sais, il me connaît. Puis, c'est pas tout le temps des choses que nécessairement je vais sauver, peut-être une coche, mais c'est juste que, regarde, ça, c'est le genre de choses qui n'est pas acceptable ici. Que ce soit une action sur la glace, une action hors glace. Puis quand que les vétérans, eux autres, ils jettent ce qu'on fait, donc, ils n'ont pas besoin de toi, là. Pas besoin. Casse-toi pas la tête, le gros, on va m'en occuper, là. Casse-toi pas la tête, coach. C'est pas de même que ça marche. Puis, dans notre bureau ici, là, j'ai John Madden qui a gagné 3 Coupes Stanley, gagné le Selkie. Il a joué les Devils dans une culture. Corey Schwab était avec lui, avec les Devils, il a gagné la Coupe Stanley. Tu sais, eux autres, là, ils en parlent souvent qu'avec les Devils, là, c'était pas. Jacques Lemaire veut pas ça ou. Robbie Starek veut pas ça ou Larry Robin. Non, we don't do that here. C'est pas de la manière qu'on joue. C'est Nate Smith comptait une histoire l'année passée. Je n'aimerais pas le nom du joueur, mais un très, très, très bon joueur pour les Panthers. Ils sont dans le camp d'entraînement. Puis Nate Smith a pris une décision sur la glace avec la rondelle. Qui a fait un jeu un peu plus créatif que ce que les Panthers font. Arrivé au banc, tout de suite, le très bon joueur, il a dit, hey Nate, good try, but we don't do that here.
Le message passé.
C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on s'attend que tu vas faire.
Tu viens de
Paul, Paul Maurice qui a dit, là. Et quand j'ai mangé avec Paul Maurice, avec Nate Smith, c'est autre, il ne m'a pas parlé d'aucune fois que Paul Maurice ou Sylvain Lefebvre lui a dit quelque chose. Il m'a parlé que c'est un joueur-là, dès le jour 1, il a fait ça. J'ai compris tout de suite qu'ici, c'était de même, ça marchait. drôle. Je suis convaincu que Paul Maurice, il a dit 150 000 affaires pendant l'année. Là. Puis c'est même de pas parler. Mais la fois que c'est son coéquipier qui en a parlé, là, oh, tout de suite, ça a rentré. Là, il a dit OK. Fait que quand on dit aux gens à quel point avoir des vétérans qui ont passé par là, qui savent comment ça marche, c'est important. Tu sais, là, qui a eu le plus d'impact à Logan Couley? André Tourigny ou Clayton Keller, vous pensez? Saisez-vous avec Coulin, là, disait, demandez-y, les 10 conseils qui ont eu le plus d'impact avec lui, là, ça va être des affaires que Keller ou des gars comme ça, ils ont dit. C'est normal. C'est pour ça que nous autres, on est là pour créer l'environnement. Oui, on donne des conseils. Oui, on enseigne tout ça. Mais ça a un plus grand impact quand ça vient d'un coéquipier que tu respectes. Quand c'est, tu sais, Coulin, matin, à la conférence de presse, là, il nous a remerciés. Sauf qu'il a parlé de Sergachev 12 fois, il a parlé de Keller 17 fois. À quel point que ces gars-là ont eu de l'impact, puis que quand ils parlent ou quand ils se mobilisent, que ça a un impact. L'impact que tes coéquipiers ont est tellement important. C'est pour ça qu'il faut bien que tu t'encadres, que tu es aligné, là, mais que tu donnes la bonne direction à ton groupe de leaders, parce que c'est eux autres qui font le gros de la job.
André, tu restes modeste? Mais là, Logan Couley, il a quand même grandi avec toi comme joueur de hockey au niveau de la Ligue nationale. Ça te fait quoi aujourd'hui de le voir récompensé avec un contrat à long terme? 8 saisons de plus du côté de Utah, Salt Lake City. 10 millions par année, si ma mémoire est bonne. Je ne suis pas le plus fort en maths, mais ça fait 80, ça, 10 fois 8.
Doit avoir quand même. 500 milliards d'émissions à mission.
Hein? Ouais, je m'en viens bon. Ma mère serait contente. Mais j'y viens.
J'aurais voulu qu'on donne 10,2. Là, il serait
tout j'arrêtais de mêler. En plus, c'est... mon père, ma mère, les deux étaient enseignants. Donc, imagine j'ai une pression quand vient le temps de calculer.
Imagine, mais André, si tu calcules l'escrow en plus, ça va être.
Non, ça, je ne me perdrai pas dans les fleurs du tapis. Mais. Tu dois en avoir une petite fierté de voir que ce joueur-là, qui est un joyau pour vous, repêché troisième, vous l'avez bien développé, puis il s'en vient comme un très solide, puis un des bons attaquants de la Ligue nationale.
Définitivement. Tu sais, mes joueurs le savent dans l'organisation. J'ai toujours été pro-player, pro pour les joueurs. T'sais, moi, pour moi, je suis toujours du bord des joueurs, puis ça. C'est une connexion émotive que tu as avec tes joueurs. Tu sais, il travaille avec à tous les jours, il a du succès, tu veux qu'il réussisse. Tu sais, je suis content pour lui, je suis fier de lui, je suis fier de la maturité qu'il a pris dans les années et tout. Fait que tu sais, je suis bien, bien content. Mais tu sais, pour moi, c'est en même temps, c'est pas une surprise. Tu sais, son niveau de maturité qu'il prend à toutes les ans, c'est impressionnant. C'est le fun de voir grandir ça, nos jeunes. T'sais, tantôt, aussi, je parlais avec d'autres de Clayton Keller, de 5 ans, versus Clayton Keller aujourd'hui. C'est plus le même homme pantoute. Là. Il est beaucoup plus mature. Il a encore la même drive, il a encore la même émotion, mais il est bien plus en contrôle. Logan Couley, sa progression comme homme dans les derniers 12 mois, c'est exceptionnel. Fait que, définitivement, je suis très fier de lui. Pour moi, c'était pas une surprise. C'est un World Hockey. Il ne faut pas oublier là-dedans. Là, Dylan Gunter, il a un peu pavé de la voie là, l'année passée quand il a signé un contrat de 8 ans. Un an avant de devenir autonome avec restriction. Il a vraiment fait un commitment de « Moi, je veux être à Utah à long terme. » Puis je veux être avec cette équipe-là à long terme, avec ces joueurs-là, avec cette gang-là. Puis là, c'est Logan Couley. Puis tu sais, ça, c'est important quand on parle de culture d'organisation parce que il y en a d'autres qui vont venir voir des Caleb Desnoyers, puis des Maverick Lamoureux, puis des T.J. Ginlub, des Cole Beaudoin, etc. Puis des Daniel Booth, puis des gars comme ça. Mais c'est le genre de culture qu'on va avoir.
Une dernière, André, puis on te laisse aller. Là. Je sais que c'est jour de congé, mais un coach. Ça prend jamais de congé, Ligue nationale. Là.
Ouais.
J'aimerais ça que tu nous parles. C'est votre deuxième saison. Donc là, ça fait un an que tu es installé du côté de Salt Lake. Si tu peux nous décrire, ça ressemble à quoi maintenant, le hockey à Salt Lake City? Est-ce qu'on parle d'une ville de hockey?
Oui, c'est... Mais honnêtement, là, le monde sont tellement enthousiastes. Ils sont embarqués. Là, bon, tu vois, là. Ryan Smith, cette semaine, faisait une joke sur Ben Wagon. C'est, oh ouais, c'est ça. Là, c'est parti. Là. Honnêtement, c'est le fun. T'sais, partout ce que je vois, là, que ce soit au restaurant, que ce soit centre d'achat ou à l'épicerie ou n'importe quoi. Là, le monde nous reconnaît, sont fins. Le monde ici est vraiment fin, c'est le fun.
Ça, en plus, avec votre nouvelle aréna, l'aréna rénovée, là, il reste encore du stock à faire en masse en haut, mais en bas, t'as-tu un peu, ça saigne-tu un peu du nez quand vous regardez l'angle, les matchs à partir de l'angle? Parce que, mais c'est fascinant ce qu'ils ont fait. Là. Moi, je trippe.
C'est sûr qu'avoir des moyens, ça l'aide.
Ouais.
ça, je suis bien au courant de ça. Mais être créatif dans la vie, tu sais, l'être humain, là, quand tu veux quelque chose, là, c'est incroyable. Quand Ryan Smith a acheté l'équipe, le 18 avril, là, il faut se mettre dans le contexte que ça faisait juste 6 semaines avant. Gary Bettman l'a appelé et disait, qu'est-ce que tu penserais d'avoir un club à Salt Lake l'année prochaine? Là, 6 semaines, ça se fait vite. Là, il y a une négociation, puis là, il achète le club le 18 avril, puis là, il rencontre les joueurs, le staff à Phoenix à l'époque. Puis là, il y a un joueur à la fin, parce qu'il dit à vous des questions. Il y a un joueur qui dit, tu sais, l'aréna, Ryan Smith dit, ben, présentement, l'aréna, de manière que les estrades sont faites, la glace, elle rentre pas jusqu'à les estrades. Fait qu'il va falloir casser les estrades du bout. Mais il dit, je sais pas comment ils vont faire ça, mais il dit, on en parlait. Il dit, ça se fait pas nulle part dans le monde. Mais il dit, voyons, il dit, dans 2024, il dit, donc un moyen que tu payes sur le piton, que les estrades sont pour le basket, tu payes sur l'autre piton, puis les estrades sont pour le hockey. Il dit, voyons, non, je vous donne en 2024. Ben, 12 mois plus tard,
là, oui.
Il paye sur le piton, c'est une game de basket. Pas 12 mois, mais 16 mois plus tard, paye sur le piton, c'est une game de basket. Tu prends 12 minutes, paye sur l'autre piton, puis là, c'est fait pour une game. Vous dites à quoi, là? Yeah, parce qu'il était comique quand il l'expliquait, parce qu'il a dit, tu payes sur le piton, puis là, les estrades font ça, puis là, c'est pour une game de basket, puis tu payes sur l'autre piton, puis là, comme Robocop, les Transformers, puis 16 mois plus tard, c'est incroyable. Ouais, ouais, quand j'ai vu ça, il dit, c'est quelque chose.
J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en haut, d'un deux côtés, parce que c'est le prochain objectif. Là, fait que veux pas, tu t'ennuies pas trop du Mullet Arena puis des 5000 places qu'il y avait là-bas. Là.
je suis un gars qui vit dans le présent.
C'est ça. Hey, André, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le balado d'aujourd'hui. On va suivre. Vous jouez 2 heures plus tard que ce qu'on est habitué, mais je trouve que, d'après moi, il va y avoir de plus en plus de monde qui vont rester debout, écouter vos matchs
c'est bon,
cette
ça.
Saison et les prochaines.
André, on va te souhaiter de trouver le piton des séries aussi.
Ouais,
ouais pas. Ça, il n'irait pas ce piton-là, moi.
Hey, merci, André.
Salut.
Hey, les gars, super entrevue avec André Tourigny. C'est le fun, hein? Quand même, André qui... tu vois, j'avais dit 10-15 minutes à peu près. On a fait une demi-heure. Je suis content. C'est ça qui est le fun avec André. Puis honnêtement, je trouve ça le fun de voir l'optimisme qui règne en Utah cette saison. Il y a de quoi qui se passe. Ça va être, comme je disais, ça va être à suivre. Et un autre endroit...
Noter, Nick, juste avant qu'on poursuive, qu'André a quand même souligné la distance entre l'aréna d'Edmonton et son aéroport. Donc, on n'est pas les seuls à trouver ça loin quand on va là au printemps. C'est ma seule parenthèse Edmonton.
Quand JF l'a dit, j'ai dit « OK, c'est un vrai épisode de la tasse de café ». La ville d'Edmonton s'est faite planter par GF.
Ouais.
C'est fait à nouveau.
Ouais. Mais quand André, juste une petite parenthèse, quand André dit que parfois, à l'occasion, son surnom de Bear lui va bien, tu sais, qu'il peut avoir l'air un petit peu fâché, quand il nous parle de ses chums de Nicolette qui le suivent, là, l'an dernier à Salt Lake City, après la défaite de 5-4 contre les Sharks où il menait 4-1, ses chums croyaient prendre une bière avec André après le match. Puis il a sorti de la salle de conférence. Eux avaient écouté la conférence de leur ami. Puis ils ont compris avec les yeux d'André que la bière était repoussée à une date inconnue, mais que ça se passait pas après une défaite de 5-4 contre les Sharks.
Il l'a bien dit. Hein, t'sais, c'est les Oilers, c'est pas les Sharks de l'an dernier. Effectivement. Je parlais d'optimisme pour les prochains mois, prochaines années. C'est un beau mois. pour les Canadiens de Montréal. Disons là, on se réveille ce matin, on est à égalité là, au niveau de au deuxième rang de la Ligue nationale avec 16 points, égalité avec les Devils du New Jersey, le Mammouth, les Pingouins et l'Avalanche. Tout le monde ensemble, la saison est jeune. Mais les gars, si on avait un bilan à faire, bon, à la suite du match d'hier contre le Kraken, victoire encore une fois en prolongation, Cole Caulfield qui marque là, même maintenant le record de concession là, au niveau d'un 11e but en prolongation pour Caulfield. Brièvement, on va faire un retour sur le mot complet. Brièvement, vous avez pensé quoi du match d'hier?
Ben écoute, le CH a réussi sa principale mission, même s'il y a des lacunes qui ressortaient. Difficile de protéger les avances. Le Kraken qui force la prolongation, réussit à créer l'égalité tard dans le match avec Montour qui marque son deuxième. Tu croyais que c'était une petite victoire facile du côté de Seattle. Ça n'a pas été le cas. C'est un petit peu à l'image de ce mois d'octobre-là. La troisième période vient souvent hanter les Canadiens, mais les canons, quand viennent le temps de produire, ils sont là. Caulfield qui marque encore en prolongation. Caulfield, c'est 9 buts en 11 matchs. C'est beaucoup de buts gagnants en prolongation. Suzuki a maintenant 16 points. 16 en 11, on parle de tout un départ pour le capitaine. Juraj Slafkovský.
Un départ olympien, même, je dirais.
Un départ olympien commence à sérieusement bien vendre sa candidature. C'est difficile là, d'ignorer Nick Suzuki, que tu le places comme quatrième centre, que tu le places comme ailier droit sur un trio plus offensif. Je crois que Suzuki mériterait d'obtenir son billet d'avion. Ça, c'est un autre sujet. Mais t'as Juraj Slafkovský aussi. Slafkovský vient de marquer son 5e but. OK, 5 buts en 11 matchs. Peut-être qu'on se dit que c'est loin d'être extraordinaire, mais quand tu considères que c'est un gars qui, historiquement, a toujours de lents départs, c'est encourageant. Physiquement, on le sent impliqué aussi. 21 mises en échec, c'est un sommet chez le CH. Puis juste par curiosité, les gars, là, je me suis amusé à regarder l'an dernier, ça lui a pris combien de matchs avant d'atteindre 5 buts? C'était 41 matchs, mi-saison.
J'aurais dit 25-30, mais 41, c'est...
41, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Puis là, on n'a pas encore parlé de Demidov, on n'a pas parlé de Matheson Dobson, on n'a pas parlé de Jakub Dobesch. Donc, il y a du positif dans ce premier mois dans l'univers bleu-blanc-rouge.
Puis quand je regarde Slafkovský, je trouve que même par rapport au début de la saison, je le trouve encore plus en confiance, plus intelligent dans sa manière de jouer. C'est peut-être parce que rapidement, il a retrouvé ses repères, mais je le trouve plus utile. Gaillard, son but, son avantage numérique, il est devant le filet. Il y a un déclic qui s'est fait rapidement chez Slafkovský cette année. Comme tu dis, c'était pas le cas l'année dernière.
Oui, il vient vraiment... on voyait déjà la complémentarité entre les trois dans les dernières années, dans leur bonne séquence. Mais là, on dirait que, je sais pas, il y a peut-être une compréhension plus rapide de son rôle. Après une coupe de saison, là, tu commences normal, à savoir ce qu'il faut que tu fasses pour complémenter Caulfield et Suzuki de la bonne façon. Puis il fait vraiment bien en s'impliquant physiquement. Hier, son but, tu l'as dit, là, tu sais, devant le filet, c'est là qu'on veut le voir, surtout en avantage numérique, là, capable de tirer sur réception, de salir le nez un peu. On en parlait justement la semaine dernière qu'il s'implique davantage autour du filet. Il va aller dans les petits chamaillages après le sifflet et tout ça. Donc, un Slafkovský qui est impliqué dans ces aspects du jeu-là, ben c'est un Slafkovský qui est peut-être plus productif qu'à l'habitude. Puis ça, s'il l'a compris rapidement cette saison, ben c'est un très, très bon signe pour les Canadiens.
Puis au-delà des points, il ne faut pas oublier que ce trio-là, Suzuki, Caulfield, Slafkovský, le mandat à 5 contre 5, c'est souvent d'être sur la glace contre le meilleur trio de l'équipe adverse. C'est premier trio contre premier trio. Puis le trio de Suzuki, en termes de possession de rondelles, les chiffres, les statistiques avancées sont quand même éloquentes. Ils ont un bon départ. Ils ne se font pas prendre non plus dans leur territoire pour de longues présences. C'est oui, ils sont des moteurs offensifs, mais défensivement, ils jouent également très bien. Là, juste, on peut remettre en question le fameux plus et moins, là, mais Suzuki est à plus 9, Caulfield est à plus 7, Slafkovský est à plus 4 depuis le début de la saison, donc c'est quand même encourageant. Puis, est-ce qu'on voit un deuxième trio qui pourrait ressembler à un deuxième trio? Je garde une petite réserve. c'est encore tôt, mais Newhook avec Oliver Kapanen et Ivan Demidov, pour l'instant, ont donné du bon hockey dans la majorité des matchs. C'est encourageant. On n'était pas certain. Est-ce que Martin Saint-Louis place les pièces du casse-tête au bon endroit? On a longuement cru que le deuxième centre, ça revenait à Kirby Dach. C'est même lui qui a été identifié dans la chaise du deuxième centre dès les premiers jours du camp. Mais Kirby Dach, offensivement, va avoir encore besoin de temps avant de trouver ses repères, s'il les trouve un jour. Pas oublier qu'il revient d'une deuxième opération. Ouais, on dirait qu'on le dit à chaque balado. Ouais, là, ouais.
Mais il y a eu une belle séquence hier où il a failli marquer.
Oh, non. Il joue pas du mauvais hockey, Kirby Dach. Mm-hmm. Il y a une implication aussi physique. Il est là dans les matchs. Je crois qu'honnêtement, là, si tu te nommes Martin Saint-Louis, Kent Hughes, Jeff Gorton, c'est quand même rassurant. Puis Dach a manqué quoi? Un ou deux matchs depuis le début de la saison. Mais c'est rassurant de voir qu'il se dirige dans le bon chemin. Puis en attendant, mais Kapanen, Saint-Louis le dit tout le temps, là, c'est un cerveau Ligue nationale, c'est un joueur intelligent. Puis Newhook, ça nous est arrivé souvent d'être négatif au sujet d'Alex Newhook en disant qu'il ne réussit pas à finir des jeux, qu'il patine comme le vent. Mais Alex Newhook, c'est un très bon départ. Là. Tu ne peux pas lui reprocher quoi que ce soit. 8 points plus 6 après 11 matchs. Donc, Newhook fait en sorte que Demidov aussi connaît de bons moments. Puis Kapanen, bien, c'est 7 points à 11 en compte.
Oui, Newhook, comme tu dis, 20, mais là, le vent fait des dommages là, dans le cas de Newhook. Puis oui, il va se placer où Demidov peut le trouver. Je pense que c'est ça la grosse différence par rapport à l'année dernière. Soudainement, tout dépendait, il était placé avec qui, mais je pense pas qu'il y avait quelqu'un qui avait l'intelligence, la vision de jeu pour le trouver où il s'avance. À l'embouchure en particulier, là, on en a vu quelques jeux là, à l'embouchure, là, donc tu as cet avantage-là. Bon, on a lancé beaucoup de fleurs et on peut en lancer d'autres parce que ce voyage-là dans l'Ouest qui s'est terminé hier avec 3 victoires sur une possibilité de 4, même le fameux match à Edmonton où la chaîne a un peu débarqué, d'indiscipline puis tout ça. Ça aurait pu être 4 en 4 là, chez le tricolore. Vous retenez quoi de ce premier mois-là? Est-ce que le travail de l'équipe sur les unités spéciales, ça vous rassure pour la suite de la saison, par exemple, en avantage numérique, tout ça?
Ben oui, absolument. Puis en plus, depuis qu'on a annoncé la blessure à Patrick Laine, ben Demidov est sur la première vague, ça fait des flamèches, là. Hier, j'écoutais Marc Denis parler justement de cet avantage numérique. Déjà, on voit que les équipes commencent à tricher du côté de Demidov parce qu'on anticipe une passe de son côté, mais de l'autre côté, t'as Cole Caulfield, t'as Suzuki, t'as Slavkovski. Hier, l'échange avec Hudson, Caulfield, Suzuki, je crois, qui a mené au but de Slav, c'était la rondelle se promène. Donc, pour moi, d'avoir deux options de chaque côté, c'est quand même un très bon... ça fait changement, en tout cas, des dernières années. Puis la deuxième vague aussi qui a ajouté son grain de sel dans cette victoire-là. Donc, tu vois que tu as deux vagues qui sont capables de produire.
Ce qui est quand même ironique un peu quand tu dis qu'en mettant Demidov... Bon, il n'y a plus de l'année. En mettant Demidov sur la première vague, c'est un peu tous les œufs dans le même panier, là, mais... Comme tu dis, c'est en plus, tu peux avoir un peu de gravy de la part d'un Bolduc, de Dobson, peu importe.
Ouais, exactement.
Ça va être du gravy, justement, là.
Ben, je veux dire, si le Canadien est rendu là dans son cycle, tu sais, t'as de la profondeur pour avoir une deuxième vague qui a des bons éléments quand même. Là, tu sais, un Bolduc puis un Dobson sur une deuxième vague, ça peut faire des flamèches aussi. Newhook qui joue bien depuis le début de la saison. Fait que t'as quand même un certain équilibre qui est appréciable du côté du Canadien, puis qu'on peut exploiter, en tout cas jusqu'à temps qu'on voit peut-être des difficultés à gauche, à droite, mais pour l'instant, ça semble très bien se dessiner là, pour le jeu de puissance. Donc, ça, c'est pas un élément d'inquiétude. Si tu me demandes les points peut-être à travailler ou les joueurs qui doivent en donner plus, ben on peut regarder ça négativement, mais si tu tournes un peu ça, tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Tu te dis, Samuel Montembeault, s'il retrouve son niveau de jeu de l'an dernier dans ses meilleurs moments, ben là, t'as peut-être... je dis pas que le Canadien aurait gagné 3, 4, 5 matchs de plus, là, parce que c'est quand même un très bon rendement depuis le début de la saison, mais tu peux aspirer à encore plus si t'as deux gardiens qui sont au sommet de leur art, comme Samuel Montembeault a démontré qu'il pouvait le faire l'an dernier. T'sais, c'est pas un départ étincelant du côté de Montembeault, mais... pour moi, je me dis, ben, y a l'amélioration de Valfilet est tangible. Tu peux la voir venir rendu au mois de novembre. L'an dernier, on lui a donné une pause avec les Quatre Nations. En fait, c'était pas une pause, là, mais il est allé s'entraîner 2 semaines avec les Quatre Nations. Il est revenu de ça. Il a eu comme un nouveau souffle, un nouveau départ à son retour des Quatre Nations. Fait que je me dis, s'il peut profiter de ce repos-là, puis au mois de novembre arriver peut-être un peu plus solide, ben là, tu te retrouves avec 2 gardiens qui font le travail, 2 vagues d'avantages numériques capables de marquer, t'as tes trios en confiance. Fait que pour moi, je vois pas ça négativement, je vois ça comme un potentiel d'amélioration de cette équipe-là qui est très facile à voir juste avec le rendement de Montembeault.
Puis encore dans la thématique d'être positif, on peut saluer Jacques Demers qui aimait ça, toujours rester positif quand il dirigeait le Canadien. Bien, Montembeault connaît un creux de vague au moment où Jakub Dobesch, lui, joue probablement son meilleur hockey dans sa jeune carrière du niveau de la Ligue nationale. Il est 6-0 Dobesch. Avec 1,97, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, il te permet de gagner du temps. Du côté de Martin Saint-Louis, du côté d'Éric Raymond, ils vont pouvoir se concentrer pour réparer, entre parenthèses, la confiance de Samuel Montembeault. Puis c'est une semaine aussi qui le permet. Et oui, il y a le retour de Seattle, mais il y aura probablement 2 jours d'entraînement avant le prochain match. Donc, Montembeault est un athlète fier, va vouloir se relever rapidement. Tantôt, on parlait du jeu en supériorité numérique. Quand tu tournes autour de 28 %, tu n'as pas le choix de dresser un bilan positif. Il n'y a personne qui s'ennuie de l'absence de Patrick Laine. Tu as assez de joueurs créatifs, tu as assez de joueurs intelligents pour que cet avantage numérique-là roule à fond. On le voit avec Suzuki. On n'en parle quasiment pas de Suzuki, mais il y a 16 points. Il y a Demidov qui est excessivement intelligent. Ses qualités de passeur ressortent en supériorité numérique avec Lane Hudson. Mais le revers de la médaille, par contre, c'était à prévoir, mais l'infériorité numérique, il faut continuer de rester près de la planche à dessin. À 75 %, ce n'est pas assez du côté de la Ligue nationale. Il se retrouve là, au 20e rang du côté du CH. Mais quand je dis que c'était à prévoir, bien, le départ de David Savard, le départ de Yoel Armia, de Christian Dvorak, tu perds 3 morceaux importants du casse-tête à 4 contre 5. Là, tu demandes à Oliver Kapanen, Alex Newhook de prendre de nouvelles responsabilités. Tu as Jake Evans et Josh Anderson qui sont un duo fiable quand même à 4 contre 5. Puis à la ligne bleue, ce qui fait mal, c'est qu'en l'absence de Caden Goulet, Arber Jackay ou Jaden Struble semblent incapables de prendre ces secondes-là, ces minutes-là en infériorité numérique. Donc, tu te retrouves à surtaxer Matheson, Dobson, Carrier. Il n'y a pas un autre défenseur pour venir t'aider en désavantage numérique. Donc, ça, je suis persuadé qu'on va faire beaucoup d'enseignements, surtout du côté d'Arber Jackay. Je continue de croire, si tu veux voir Arber Jackay devenir un défenseur régulier de la Ligue nationale, un top 6 vers qui tu peux te tourner, il doit absolument être bon en désavantage numérique. Puis on n'a pas encore atteint ce stade-là du côté du Canadien.
Oui, puis je vais faire du chemin sur ce que tu dis sur les vétérans qui ne sont plus là avec l'équipe. Tu regardes le nombre de buts donnés en 3e période par le Canadien cette année, il y en a 18. C'est au 2e rang ou au 31e rang de la Ligue. Là. Il manque cette présence de vétérans-là quand la pression est plus forte. On l'a vu hier contre le Kraken. Quand le Kraken a ouvert la machine en 3e période, ça s'est mis à être beaucoup plus difficile. Puis c'est là qu'on s'est fait remonter puis tout ça. Puis c'était le même cas contre les Oilers. Il manque... Ça, c'est l'autre point qui est... Bon, comme on dit, comme tu as dit, là, c'est la même racine, là, le problème. Là. Mais justement, d'aller chercher... d'être beaucoup plus calme dans les situations de pression ou de pression défensive. Juste ça, si on peut... améliorer ça un peu, bien encore là, il va avoir encore plus place à optimisme chez le tricolore. Prochain match du tricolore, c'est samedi contre les Sénateurs d'Ottawa. Faisons du chemin là-dessus, justement. JF, t'es allé visiter Kanata lundi. T'es allé jaser avec Shane Pinto. Avec la blessure de Brady Tkachuk, ça prenait quelqu'un qui prend la relève dans le cas de Pinto. On l'attend depuis quelques années, rendu à 24 ans. Pinto connaît tout un début de saison. As-tu l'impression que c'est... Ça se considère-tu un peu comme une surprise qu'il connaît comme début de saison quand on sait que l'année dernière, ça a été plus difficile pour lui à Ottawa?
Ben, les 2 dernières saisons, si on recule d'il y a 2 ans, on se souvient de l'histoire où il avait enfreint les règles de la Ligue nationale au niveau des paris sportifs, a été suspendu pour 41 matchs. L'an dernier, en début de saison, nouveau coach avec Travis Green, Il s'est blessé dans les premières semaines, a manqué une dizaine de rencontres. Donc, il n'a pas eu le temps de peut-être prendre son envol comme il l'espérait. Mais cette année, Pinto, c'est 8 buts. Mais au-delà de la production offensive, on lui donne le mandat à 5 contre 5 d'être contre les gros trios de l'équipe adverse. Joue avec Claude Giroux, puis avec Michael Amadio. Joue en désavantage numérique également. C'est un centre qui est décrit comme étant... Thomas Chabot, quand je lui ai parlé de Shane Pinto, la première chose qu'il m'a mentionné, c'est son jeu défensif. C'était pas ses 8 buts. C'est comme quoi c'est un centre qui est intelligent, qui peut être de toutes les missions sur une patinoire. Puis c'est encourageant du côté d'Ottawa parce que sans Brady Tkachuk, sans le leader, tu as besoin de tourner vers d'autres joueurs. Shane Pinto semble vouloir saisir le relais. Même chose pour Dylan Cousins. Il y a encore des trucs à travailler au niveau défensif, mais il y a quand même une production, pratiquement un point par match pour Dylan Cousins. Puis au moment où j'étais à Ottawa, c'était une victoire de 7-2 contre les Bruins. Il venait de coller deux matchs d'affilée avec 7 buts. Puis Drake Batherson disait, je pense que j'ai jamais vécu 7 buts dans deux matchs d'affilée depuis que je joue à Ottawa. Batherson avait raison. La dernière fois, il fallait remonter à 1993 pour voir les Sénateurs en marquer 7 dans deux matchs d'affilée.
Attaque, ça s'appelait le Palladium, là, comme
ouais,
on,
ouais,
comme
ouais,
on disait
c'est,
tantôt.
C'est, oui,
non, le temps où la salle... 93, est-ce qu'on était au Civic Center même?
Ça se peut que ce soit le Civic Center. Ouais, ouais, ouais. C'est les balbutiements, le début des Sens. Mais tu vois, à Ottawa, le discours, c'était bien, cette équipe-là semble vouloir prendre son envol. Ça commence à bien tourner. Le match suivant, bien, bouf, tu t'encaisses 7 buts contre les Blackhawks. Mais en même temps, c'est historiquement, quand tu joues deux matchs en deux soirs, tu as le voyagement. Les Blackhawks n'avaient pas joué la veille. Donc, peut-être que là, on parle d'une simple erreur de parcours. Mais les Sénateurs, le principal objectif, ça va être de rester compétitif, d'être dans la course en attendant le retour de Brady Tkachuk. Tkachuk a déjà recommencé à patiner. Patiner, c'est normal, là, revient d'une opération à un pouce. Mais devrait manquer encore environ là, 4 semaines avant de revoir Brady Tkachuk au sein de la formation.
Bon, donc pour les Sénateurs, ça va être. Ben, ça va être. J'ose pas dire tenir le coup, parce que on a participé aux séries éliminatoires l'année dernière. Ça va vraiment être
De rester dans le portrait, tu peux pas trop t'éloigner. Si
non,
tu t'éloignes
je
trop
de...
au mois d'octobre, novembre, c'est là que ça vient tenter ouais. pour les dernières semaines.
Mais je voulais plus prouver que tu es une équipe mature, que tu es capable mm-hmm. de passer par-dessus ces étapes-là, même quand tu perds un joueur de grande qualité comme Brady Tkachuk. Hey, les gars, terminant, toi, tu es allé à Ottawa, GF, mais Guillaume, tu es allé du côté de Boston, tu as été faire un peu de tourisme au Aganis Arena, c'est ça, du côté de l'Université
ouais,
de Boston?
L'aréna de l'Université de Boston.
Le luxueux et moderne Aganis Arena, hein, si je ne me trompe pas.
Ben, c'est plus moderne que l'aréna de Northeastern, ça je peux le confirmer.
Ah, je me mélange
confirmer.
Entre les deux, excuse, ouais, c'est ça, c'est celui-là.
Ouais, Northeastern, je pense que c'est sa dernière saison, là, après
ça,
démoli, mais c'est là que les Bruins ont commencé à jouer ouais. jadis. Donc, cette aréna-là est vraiment... Mais là, on parle d'une aréna de 6000 places, c'est quand même assez, je ne pourrais pas dire l'année de construction, mais ça semble assez okay. récent.
J'ai mélangé.
Assez
j'ai
luxueux, mélangé, et les installations de l'Université de Boston sont assez impressionnantes. Là.
Ouais,
on parle
c'est...
de...
Tu comprends un peu pourquoi soudainement l'attrait hein, l'attrait
ouais.
des joueurs de la LCH pour aller aux États-Unis. Il y en a un justement qui a fait le saut lors de l'été dernier, c'est Porter Marton. Michigan State est en visite du côté de Boston pour affronter les Terriers. Les Spartans, c'est une des équipes qui a été capable d'aller chercher quelques gros noms du Canada, de la LCH. Marton est un de ces joueurs-là. Comment ça se passe pour celui qui a été quoi, sixième, Marton?
Sixième
ouais, par...
Sixième au total.
Ouais,
par les Flyers.
C'est par les Flyers. Donc, comment ça se passe pour Marton? Tu le vois-tu? Tu vois-tu déjà... Lui, son saut, comment il vit? S'il a à se retourner de bord, est-ce que justement, il va recommander à ses chums un an plus jeune de s'en venir vers les États-Unis? C'est comment pour lui, Marton, jusqu'à présent,
ben,
avec les Spartans?
Honnêtement, à moins qu'il ait beurré épais, là, j'ai l'impression que c'est un joueur qui va recommander de faire ce chemin-là à tous ses chums, comme tu dis. Tu sais, c'est quand même un joueur qui avait... 4 saisons là, derrière la cravate, 3 saisons derrière la cravate dans la Ligue de l'Ontario. Fait que pour lui, c'était de passer à une autre étape, là, tu sais, retourner dans la Ligue de l'Ontario pour une 4e saison ou vivre quelque chose de différent du côté de la NCAA. Il a opté pour la NCAA. Il y avait aussi discuter avec les Flyers, peut-être de signer son contrat, mais il sentait qu'il y avait quelque chose de plus à aller chercher en disputant une saison avec Michigan State, qui a vraiment une équipe, c'est une équipe qui va se battre pour le championnat national, ça, il n'y a aucun doute. On a vraiment des gros noms, on a Trey Augustine devant le filet, c'est très, très solide comme équipe. Puis moi, ce qui me saute aux yeux, dès les premières présences du match contre l'Université de Boston, c'était un grand duel. Là. C'était deux équipes au sommet du classement et tout ça. C'était quand même très couru. Le match était à ESPN. Dès les premières présences, Porter Martone, fidèle à lui-même, dans la face de ses adversaires, autour du filet, frappe tout ce qui bouge, crée des occasions de marquer. Donc, pour lui, ça semble vraiment être une transition qui se fait en douceur. J'ai vraiment compris, tu sais, puis je lui ai posé la question après le match, j'ai dit, est-ce que le style de jeu de Michigan State a été un point qui t'a attiré là-bas, tu sais, parce qu'il y a plusieurs universités qui ont cogné à sa porte, évidemment, là, quand on a su qu'il voulait faire le saut, puis il dit, tu sais, nous, on joue de façon directe, on met la rondelle derrière les défenseurs, on use la brigade adverse, puis on a tout le temps la pédale au plancher, puis c'est exactement le genre de joueur qu'il est. Donc, ça fit, j'ai titré le match parfait de Porter Martone, parce que c'est exactement ce genre d'hockey-là qui peut lui permettre de se démarquer. Puis, tu compares ça, tu regardes peut-être dans l'avenir un peu avec les Flyers. Je pense que les Flyers jouent aussi ce type d'hockey-là. Ouais. Puis c'est un joueur qui va vraiment coller à cette identité-là. Donc, pour lui, je peux comprendre que c'était le choix qui était logique pour lui dans la continuité de sa progression vers la Ligue nationale. Là. Pour l'instant, je pense que c'est 9 points en 6 matchs, 3 buts. Donc, ça se passe assez bien de son côté.
Puis du côté de Boston, Guillaume, si je me trompe pas, on commence à avoir un petit brin d'amour pour le CH, pour Montréal. On peut voir de temps en temps le nom d'Hudson, autant dans les gradins que sur la glace avec le petit frère.
Ouais, ben c'est ça, Cole Hudson qui occupe un grand rôle dans cette équipe-là de l'Université de Boston. Il a pris la relève du grand frère. Puis ce qui me sautait aux yeux, c'était qu'il y avait quelques chandails des Canadiens là, dans les gradins à Boston. Pas très loin du centre-ville. Habituellement, je pense pas que c'est quelque chose qui est acceptable.
C'est mal vu.
C'est ça.
Oui.
Peut-être qu'avec le nom d'Hudson, ben on a une excuse pour porter les couleurs des Canadiens. Il y en avait quelques-uns dans les gradins. Il y avait beaucoup de gens aussi qui portaient le numéro 20 qu'Hudson portait il y a deux saisons avec l'Université de Boston. Je parlais avec Jay Pandolfo qui l'a dirigé pendant ces deux saisons. Puis il disait l'an dernier, quand il a quitté, il voulait pas dire « je savais qu'il allait gagner la recrue de l'année », mais il dit « on savait qu'il allait avoir un impact immédiat parce que c'est un joueur qui était tellement dominant et qui était différent dans sa manière d'approcher les choses, dans sa manière dans tout son thinking ». Donc, il n'a pas vraiment été surpris de la première saison d'Hudson avec les Canadiens, mais on se réjouit beaucoup là, du côté de Boston University de voir Hudson connaître le succès qu'il a. Puis aussi, d'avoir signé ce gros contrat-là de 8 ans, la stabilité, le succès. Jay Pandolfo dit, pour nous, c'est de l'or en bord. Là. On se retourne vers nos joueurs puis on dit, voyez, Lane Hudson était ici il y a 2 ans. Voyez ce qu'il fait dans la Ligue nationale. Puis ça, c'est un gars qui travaillait chaque jour, qui donnait exact. Il a aussi dit, c'est très bon pour vendre le programme à ceux qui pourraient penser à faire le saut là-bas. Donc, c'est certain que c'est un excellent point de vente d'avoir des gros noms comme ça qui ont passé par là. Puis il y a McLean Celebrini aussi qui était là il n'y a pas si longtemps. Donc, on parle quand même d'un programme qui... Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de ventes à faire là, pour ceux qui souhaitent se joindre à cette équipe-là. Mais c'est quand même très bien d'avoir des bons exemples comme ça de Lane Hudson là-bas. Là.
Justement, tu parles de joueurs qui se sont joints à ce programme-là. Sacha Boisvert qui a fait le saut, qui a quitté le North Dakota, qui était pourtant son université qui avait visité depuis longtemps. Boisvert était quoi, je pense, avait 15 ans là, ou 16 ans lorsqu'il s'est entendu avec North Dakota. Dans le cas de Boisvert, bon, c'est un choix 18e au total des Blackhawks de Chicago en 2024. Tu y as parlé. Qu'est-ce qui explique un peu sa décision de se rejoindre à l'Université de Boston, tout son processus? Comment ça se passe jusqu'à présent pour lui?
Ben pour l'instant, son premier match, un but, 2 passes. Donc, ça a été un bon départ, mais il s'est blessé. Donc, il est aux prises avec une petite blessure à l'épaule qui m'a dit. Donc, il joue un match sur 2 jusqu'à maintenant. Donc, j'ai l'impression que ça le... ça l'agace un peu, ça l'empêche d'être au sommet de son art. Mais pour lui, il dit à Boston, c'est tout un changement de dynamique. Il se retrouve avec beaucoup de joueurs de premier plan qui sont des espoirs de premier plan des équipes de la Ligue nationale. Il dit, on pratique ensemble. Il dit, à North Dakota, il y avait beaucoup de vétérans, mais plus ou moins de joueurs de choix de première ronde, de choix de deuxième ronde qui pouvaient aspirer à la Ligue nationale. À Boston, c'est complètement l'inverse. Donc, il dit, on a une grosse équipe. On sait qu'on peut aller jusqu'au bout. Lui, il veut jouer un grand rôle là-dedans. On parle quand même de... Quand il est en santé, il est au centre du premier trio de Boston University. C'est un jeune Québécois qui est probablement... On entend moins parler, mais c'est probablement l'espoir québécois le plus prometteur avec Caleb Desnoyers. Mm-hmm. On l'oublie parfois parce qu'il a décidé de faire son chemin aux États-Unis, mais je trouvais ça intéressant d'aller le voir. Puis lui, ce qui a déclenché ça, c'est le congédiement de Brad Berry, qui était l'entraîneur à North Dakota au terme de sa première saison. Il a été recrue de l'année là-bas dans la division NCHC. C'est quand même 32 points en 37 matchs, 18 buts. C'était prometteur pour la suite, mais le changement d'entraîneur a vraiment fait en sorte que plusieurs joueurs ont décidé d'explorer d'autres options. Puis, tu sais, Sacha Boisvert a étudié ou a poursuivi son développement au collège Mount Saint-Charles, qui est comme à 50 minutes, je pense, du Agonis Arena. Donc, il dit, moi, quand j'avais 14-15 ans, je venais avec tous mes coéquipiers, on venait voir les matchs de l'Université de Boston. Il y a même une photo de lui à 15 ans avec les couleurs de l'Université de Boston. Donc, il dit, ça a toujours été comme North Dakota ou l'Université de Boston. Donc, quand il a décidé d'aller sur le portail des transferts, bien, ça a été un choix facile pour lui de s'amener à Boston. Puis, il a l'impression qu'avec une autre grosse saison, va pouvoir faire le saut l'an prochain avec les Blackhawks. Puis avec ce qu'on voit des Blackhawks jusqu'à maintenant, là, la place qu'on fait aux jeunes et le temps de jeu qu'on leur donne, les responsabilités, ben, c'est très encourageant pour lui là, de regarder ça et de se dire ben, regarde, l'an prochain, je vais peut-être être rendu là. Puis ça va être intéressant à suivre comme saison parce que pour l'instant, avec la blessure, on a l'impression qu'il n'est pas capable d'avoir l'impact qu'il voudrait avoir, mais la saison est longue. Puis j'ai l'impression qu'avec Cole Iserman comme ailier, ça pourrait faire des flamèches éventuellement là, quand il va retrouver la forme.
Puis corrige-moi si je me trompe, mais il y a le style de jeu où il n'y a pas besoin d'être sur les deux premiers trios à Chicago pour jouer, pour être utilisé. Mmh. Là, ça peut devenir un rouage de troisième trio qui va te donner un peu de production offensive, mais qui va bien jouer avec le physique.
Tu sais, Jay Pandolfo disait il peut tout faire sur la glace. Il peut être autant être offensif que défensif. Il peut s'impliquer physiquement, il peut marquer, il peut fabriquer des jeux. Donc, même s'il n'est pas sur les deux premiers trios, je pense qu'il y a un Sacha Boisvert au centre d'un troisième, un centre d'un quatrième pour lui donner du millage dans la Ligue nationale, ce serait... Pour lui, ce ne serait pas un pas de recul ou quoi que ce soit. Ouais. C'est un joueur qui est vraiment polyvalent. Donc, va développer ça à sa première saison à l'Université de Boston. Puis peut-être, on aspire là aussi au championnat national. Donc, pourrait jouer plusieurs matchs d'importance qui va être très, très bénéfique pour son développement.
On va suivre ça. Ton texte avec Sacha, on peut lire ça sur lnh.com. Même tes textes de ta virée aux États-Unis. Même chose, mm-hmm. GF, ton texte avec Shane Pinto. Tu as parlé aussi avec Jonathan Spiro là, qui a joué.
Oui, Jonathan Spiro, qui avait été rappelé, n'avait pas joué son premier match de la Ligue nationale du côté d'Ottawa, mais a eu le bonheur de porter l'uniforme des Bruins, de jouer un premier match dès le lendemain. Donc, à 26 ans, après 297 matchs dans la Ligue américaine, Jonathan Spiro peut maintenant dire que oui, il a joué, qu'il a patiné dans la Ligue nationale. Donc, puis hier, ça a été dans une cause gagnante du côté des Bruins contre les Islanders à participer à son premier match.
Bon, bien, tout ça, on va pouvoir aller ça. Mais d'après moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être parler aussi à Charles-Édouard Dastou, là, qui a marqué son premier but hier. Tout ça, allez sur le site de lnh.com. Vous allez pouvoir lire ça, nos textes. Et pour ce qui est du balado, bien, prochain épisode, mercredi prochain, on va se reparler. Comme c'est notre habitude, GF, Guillaume, merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup aussi à André Tourigny qui était là un peu plus tôt. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.